Le journal de la rédaction vous est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Et bonjour à toutes et à tous. Et l'on commencera donc ce journal avec la chronique d'un échec annoncé, puisqu'en annonçant hier à la surprise générale vouloir engager la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget à 44 milliards d'euros d'économies, la seule clarification que François Bayrou risque d'obtenir, c'est son éviction après que la gauche et le RN ont annoncé qu'ils voteraient contre. Sa chute paraît quasi certaine. On étudiera les différents scénarios possibles. On en parlera notamment avec notre invité aujourd'hui, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Et puis on reviendra également sur les raisons de cette situation chaotique pour les finances publiques. On se rendra en Israël où des centaines de manifestants réclamant la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages se sont mobilisés ce matin à quelques heures d'une réunion du cabinet de sécurité qui pourrait discuter d'une reprise des négociations en vue d'une trêve dans le territoire palestinien. Enfin, on reviendra sur le dernier coup de boutoir de Donald Trump, le président républicain, qui a annoncé hier le limogeage pur et simple de l'une des gouverneurs de la Fed, la Banque centrale américaine. Moi ou le chaos, c'était là. On s'en souvient, la stratégie défendue en son temps par un certain Emmanuel Macron pour se faire élire, puis réélire au palais de l'Élysée. C'est encore peu ou prou la même tactique qu'a donc choisi d'adopter hier son ami François Bayrou, lequel d'une voix quasi sépulcrale et non sans avoir auparavant décrit un tableau apocalyptique de la situation financière du pays, annoncé bravache vouloir engager la responsabilité de son gouvernement lors d'un vote de confiance à l'Assemblée le 8 septembre prochain. Un pari pour le moins audacieux. Courageux, diront certains, suicidaires les autres, puisqu'à l'exception de la droite, la gauche dans son ensemble a aussitôt choisi de prendre au mot le chef du gouvernement et décidé d'ores et déjà de voter contre, de même que le Rassemblement National. On va y revenir avec notre invité. Quoi qu'il en soit, et arithmétiquement parlant, on voit mal donc comment ce vote pourrait conduire à une autre issue pour le Premier ministre qu'à une démission pure et simple. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Seule certitude en plaçant ainsi son gouvernement en sursis, François Bayrou nous oblige déjà à se poser la question de l'après.
Et il n'y a pas une réponse à y apporter, mais une multitude d'hypothèses. François Bayrou tombe, Emmanuel Macron devra nommer un nouveau Premier ministre, c'est sa compétence prévue par l'article 8 de la Constitution. Toutefois, les textes ne lui imposent pas de délai, le gouvernement démissionnaire reste en charge des affaires courantes pour une durée indéterminée. Celui de Gabriel Attal avait duré 51 jours, avec chaque jour des reproches en illégitimité de la part des oppositions. Et trouver un Premier ministre n'apportera pas nécessairement plus de stabilité. S'il est issu de la gauche, si tant est que le président le veuille et que les partis de l'ancienne NUPES se mettent d'accord sur un nom, ou s'il vient du socle commun, l'actuel ministre des Armées par exemple, Sébastien Lecornu, qui a déjà été pressenti pour le poste, dans chacun de ces cas, aucun ne peut jouir d'une majorité absolue au Parlement. L'instabilité née de la dissolution de juin 2024 demeure, même blocage pour faire passer un budget, qu'il soit similaire ou à l'opposé de celui proposé par François Bayrou, la censure serait immédiate. En acceptant le vote de confiance à François Bayrou, le chef de l'État se met face à une crise politique profonde qui ne lui ouvre que peu de chemin. Celui de la dissolution, vous l'avez dit, donc de nouvelles élections législatives, les partis de gauche ont déjà annoncé s'y préparer. Il ne faut pas écarter cette hypothèse, estimait même ce matin Gérald Darmanin, qui espère que cela résoudra le conflit entre le pouvoir législatif et l'exécutif, ce qui est loin d'être assuré. La dernière dissolution n'a pas joué en faveur du camp présidentiel. La probabilité de voir Renaissance perdre de nombreux sièges et le RN en reporter tout autant est très haute. Et s'il n'a jamais encore été question de démission pour Emmanuel Macron, la crise politique, les circonstances imposent qu'elle soit considérée à minima comme hypothèse. Elle est en tout cas de nouveau poussée par les insoumis ce matin.
Merci Adrien Toffolet. Alors on l'aura compris, cette annonce pour le moins inattendue pose encore de très nombreuses questions, y compris stratégiques, et notamment parce que ce vote devancera de 2 jours la fameuse date du 10 septembre, synonyme d'une rentrée sociale tumultueuse. Est-ce une manière de placer les oppositions face au risque d'ouvrir une nouvelle période d'instabilité dont elles devront assumer seules la responsabilité, ou bien s'agit-il plus simplement d'ailleurs pour François Bayrou d'engager un ultime barreau d'honneur destiné à se préserver lui même avec un certain panache en attendant son heure, comprenez, la prochaine présidentielle. En réalité, ce coup de poker ne pose pas uniquement la question de l'après, mais aussi de l'avant. Pourquoi ? Parce que personne ne remet en cause aujourd'hui la gravité du constat, une dette abyssale. En revanche, Tous ne sont pas d'accord sur la manière d'y remédier. Et puis surtout, ce serait bien vite faire l'économie de comment nous en sommes arrivés là. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, l'exécutif porte lui-même une part de responsabilité importante.
Oui, alors si on voulait être exhaustif, on pourrait dire que tous les gouvernements depuis 1973, puisque c'est à partir de cette date que les déficits publics se sont succédés, jusqu'à devenir une habitude. C'est sur longue durée que cette dette s'est constituée, mais ce n'est pas linéaire. Il y a des moments d'accélération et la présidence d'Emmanuel Macron en est une. En gros, il a fallu 30 ans pour passer de 0 à 1000 milliards de dettes. Puis 12 ans, de 2004 à 2016, pour passer de 1000 à 2000. Et aujourd'hui, on est à 3200 milliards, ce qui fait 1000 milliards de plus en 8 ans. L'accélération est manifeste, incontestable. Une partie est due à la crise Covid et à l'envolée des prix de l'énergie. Mais selon la Cour des comptes, si on cumule aide Covid, plan de relance et bouclier tarifaire, le coût total est 235 milliards d'euros, pas 1000 milliards. Et si les marchés financiers sont en ce moment plus réticents à acheter de la dette française, c'est aussi qu'il y a eu cette erreur de prévision qui a fait déraper le déficit de plus de 50 milliards l'an dernier. Il y a donc une responsabilité politique des exécutifs qui se sont succédés dernièrement au pouvoir et les partis d'opposition utilisent cet argument en boucle pour se dédouaner de toute responsabilité s'ils ne votent pas la confiance et font tomber le gouvernement. Mais il y a aussi des éléments factuels. Et ce qui est factuel, c'est qu'à chaque fois que Bercy cherche à emprunter pour financer sa dette, les investisseurs, banques, gestionnaires de fonds qui lui prêtent demandent une prime de risque plus importante. Que la Grèce obtienne de meilleurs taux d'intérêt que la France, c'est un vrai signal, plus que faible. L'instabilité politique a donc un effet concret, sonnant et trébuchant sur les comptes publics, mais qui la nourrit ? Et chacun, là encore, de se renvoyer la balle.
Merci Marie Viennot. Et puis j'ajoute que parmi les signes aujourd'hui de fébrilité, les actions des banques, lesquelles détiennent en masse des titres de dette, ont lourdement chuté ce matin à l'ouverture de la bourse. Et pour continuer d'évoquer donc ce nouveau coup de théâtre de la politique française, invité à présent de la rédaction, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Nicolas Ballu. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
On l'a dit, vous avez appelé aujourd'hui, comme la gauche, à voter contre la confiance à François Bayrou. Est-ce que vous iriez jusqu'à considérer, comme le fait ce matin Jean-Luc Mélenchon, que le problème, ça n'est pas tant François Bayrou qu'Emmanuel Macron, que c'est au fond le président, le premier responsable de la situation actuelle et qu'il doit lui aussi partir?
Le problème, c'est un système, un mode de gestion de l'économie et de la société française. Depuis 50 ans maintenant, la dette est un recours facile au fait que des gouvernements ont choisi de ne pas réduire les dépenses de l'État et de s'en prendre toujours plus, par l'impôt notamment, aux Français qui travaillent. Et donc, quand vous ajoutez la masse fiscale qui augmente, la dette qui augmente, vous avez en face un service public qui diminue, paradoxalement, et un État qui devient de plus en plus obèse. C'est, j'allais dire, ce hiatus entre la réalité de ce que payent les Français et du service qu'ils reçoivent, qu'il faut maintenant résoudre. Monsieur Macron n'est que l'héritier de ceux qui l'ont précédé. Et Monsieur Bayrou n'est finalement que l'exécuteur testamentaire d'une Macronie à l'agonie.
Mais c'est la même politique. Donc vous n'appelez pas la
destitution d'Emmanuel Macron. Mais la destitution, Monsieur Mélenchon n'y croit pas lui-même. Enfin, c'est un effet de scène. Monsieur Mélenchon est un acteur d'une comédie soviétique qui a quelques téléspectateurs, c'est vrai, mais qui n'est pas concrète. Le seul à décider du départ d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Moi, j'ai du mal à croire qu'il quitte le confort de l'Élysée. J'espère qu'il le fera. Nous n'y croyons pas. En revanche, nous, parti politique, premier parti de France, ce que nous pouvons faire, c'est demander la dissolution. Parce qu'il faut une majorité à ce pays. Il faut prendre des réformes. Il faut dire, par exemple, qu'il y aura une règle d'or en France. Quand on n'a pas réduit les mauvaises dépenses, le coût de l'immigration, le coût de l'Union européenne, le coût de l'assistanat, l'État obèse, tant qu'on n'aura pas fait ce travail, on ne pourra pas demander un centime d'effort supplémentaire aux Français, et notamment ceux qui travaillent dur ou qui ont travaillé dur. Mais ça doit être porté par un groupe politique solide, un gouvernement uni, et donc une majorité. Et c'est pour ça que nous appelons à la dissolution.
Alors cette dissolution, globalement, Emmanuel Macron ne l'exclut pas. Il y a encore quelques jours, il expliquait ne pas être tenté d'utiliser cette arme institutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il y sera politiquement contraint si François Bayrou tombe?
En tout cas, s'il ne le fait pas, la France ne s'en sortira pas. Monsieur Bayrou sera remplacé par un autre, vous avez cité Monsieur Le Cornu, peut-être quelqu'un d'autre, mais qui devra finalement mener la même politique. C'est-à-dire nous expliquer, il manque 50 milliards, donc on va demander aux retraités, on va demander aux chefs d'entreprise, on va demander aux Français qui bossent de mettre la main à la poche. Mais alors par contre, on ne touchera pas à l'immigration. des dizaines de milliards par an, on n'y touchera pas. Le budget de l'Union européenne, on continuera à surabonder. Et puis l'assistanat, bah, on tolérera. Bah, c'est plus audible, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une dissolution, mais une vraie dissolution.
C'est-à-dire ?
Bah, une dissolution où il n'y a pas au deuxième tour l'alliance de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez pour empêcher la majorité du Rassemblement National. Parce qu'on a vu ce que ça donnait. Ça donne un pays ingouvernable. Ces gens-là ne pensent pas pareil, en tout cas je l'espère. On ne peut pas imaginer un gouvernement où chaque ministre veut devenir président de la République et détruit le travail de son petit copain d'à côté. Il faut maintenant une équipe unie. Et pour ça, il faut une majorité.
C'est pour ça que vous ne demandez pas un Premier ministre issu du RN ? Si jamais le gouvernement...
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait faire, le pauvre ? Nous sommes 123, avec nos alliés de chez Éric Ciotti, nous sommes 145. Nous avons des idées, nous avons un programme, et je vous l'ai dit, trouver des économies avant de faire la poche des Français pour la question de la dette. Mais, une fois encore, pour ça, il faut une majorité. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Et donc, il faut le retour aux urnes pour que, enfin, les Français aient un pays gouvernable.
Mais alors, vous avez entendu Marie Viennot de dissolution en censure, en passant par des votes de confiance ou de défiance. Est-ce que la situation économique et financière de la France ne se retrouve pas otage du jeu politique, de l'instabilité politique ?
En tout cas, on ne peut pas priver les Français de l'espoir et du changement simplement avec cet argument. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de constater qu'un pyromane est en train de mettre le feu à la forêt et qu'il vous explique que s'il lâche l'allumette, ça sera encore pire, la pire des erreurs, ce serait de le laisser faire. Donc, on est aujourd'hui face au capitaine du Titanic, M. François Bayrou, qui dit, voilà, je vais droit vers l'iceberg, mais faites-moi confiance pour diriger le navire. Ben non, non, clairement, on vous fait pas confiance. Et je pense qu'il faut absolument changer d'équipe et d'équipage. Donc, oui, c'est vrai, c'est pas un facteur de stabilité, on va pas se mentir. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous n'avons pas la censure facile. On a parfois été raillés, voire critiqués pour ça. Mais on sait que c'est une décision très lourde. Mais là, c'est pas nous qui posons la question, c'est le Premier ministre. Est-ce que vous me faites confiance ? Moi qui ai accumulé les dettes, moi qui ai soutenu tous ces gouvernements qui ont utilisé cette facilité, moi qui ai laissé prospérer l'immigration, l'insécurité, est-ce que vous me laissez faire ? Eh bien, nous sommes bien obligés, respectueux du mandat de nos électeurs, de lui dire non.
Au cœur de l'été, Marine Le Pen a demandé à ses troupes de se préparer à une éventuelle dissolution. Est-ce que le RN est prêt ?
Oui, nous le sommes. Nous avons même, bien avant cet été, commencé à investir nos 577 candidats. Nous aurons un bureau de campagne la semaine prochaine. Vous savez, on est cohérent. On demande la dissolution. C'est pour avoir la majorité. Et donc, on s'y prépare.
Et on terminera par ces mots. Merci Laurent Jacobelli.
Merci de votre invitation.
Porte-parole donc du Rassemblement National d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous Nicolas Baluche. Sourd à l'avalanche de critiques suscitées par son plan de conquête de Gaza, Benjamin Netanyahu, de plus en plus isolé sur la scène extérieure comme intérieure, a dit hier déplorer un accident tragique après la mort de 5 journalistes dans une double frappe de l'armée israélienne sur un hôpital de la bande de Gaza. Frappe qui ont fait au total 20 morts. Le cabinet de sécurité doit se réunir dans la soirée. Le porte-parole du Premier ministre n'a pas précisé les questions à l'ordre du jour de cette réunion. De leur côté, les familles des otages ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation pour réclamer la fin de la guerre et la libération des derniers captifs. Une conférence de presse était organisée à ce sujet ce matin même à Tel Aviv, où s'est rendu notre correspondant Thibault Lefebvre.
Des parents désespérés mais combatifs qui attendent depuis maintenant 690 jours le retour de leurs enfants. Aïnav Zangaoker est la maman de Matan, enlevée le 7 octobre dans le kibboutz Niroz.
Netanyahou, pourquoi est-ce que tu traînes des pieds ? Si pour le Premier ministre, il est important de mettre fin à la guerre, pourquoi ne pose-t-il pas les bases d'un accord ? Une chose est sûre, il a peur de la pression du peuple. J'appelle la population à descendre dans la rue.
Benjamin Netanyahou est évidemment au centre des critiques. Il réunit à 17h heure française ses ministres pour déterminer notamment si oui ou non le gouvernement ouvrira un nouveau cycle de négociations. La grande majorité des familles d'otages n'attend rien de cette réunion. Tout se joue à Washington, selon Agit Chen. Son fils Itai est un soldat israélo-américain, vraisemblablement mort en captivité.
Président Trump, vous nous avez promis, à nous, les familles d'otages, quand vous nous avez rencontrés, que chaque otage pourra rentrer chez lui. C'est le moment d'accélérer et de faire en sorte que ça se passe, même si le Hamas n'est pas encore détruit.
Hier soir, le président américain a affirmé que la guerre à Gaza pourrait être terminée d'ici 2 ou 3 semaines. Objectif louable, mais qui semble irréalisable pour le moment, tant les exigences des belligérants sont inconciliables.
Jamais avare de déclarations chimériques, le président américain a lancé hier « Je crois que nous allons mettre fin à la guerre en Ukraine », sans toutefois donner davantage de précision, et ce alors même que son projet de réunir ses homologues russes et ukrainiens autour d'une même table semble plus que jamais dans l'impasse. Donald Trump, toujours lui, qui répète à l'envi avoir mis fin à 6 ou 7 guerres depuis son investiture, sans que personne d'ailleurs ne sache en dresser la liste exacte, dit également vouloir rencontrer à nouveau le dirigeant et autocrate nord-coréen Kim Jong-un, peut-être dès cette année. On se souvient que le président américain l'avait rencontré déjà 3 reprises lors de son premier mandat, sans que rien ne change sur les capacités nucléaires de Pyongyang, pas plus que sur la situation entre les deux Corées, toujours techniquement en guerre depuis maintenant plus de 7 décennies. Enfin, toujours plus prompte, décidément, à dégainer plus vite que son nombre de milliardaires, Donald Trump a annoncé hier limoger une gouverneure de la Banque centrale américaine avec effet immédiat. Justine Leblond, bonjour.
Bonjour.
C'est tout simplement du jamais vu dans toute l'histoire de la Fed. De son côté, la gouverneure en question, donc Lisa Cook, assure qu'elle restera en poste.
Je ne démissionnerai pas, je continuerai à exercer mes fonctions pour aider l'économie américaine comme je le fais depuis 2022. Voilà ce que Lisa Cook écrit dans un communiqué. Lisa Cook, première femme afro-africaine à occuper un poste de gouverneure à la Banque centrale américaine. Elle a été nommée par Joe Biden il y a 3 ans. C'est une ancienne collaboratrice de Barack Obama et depuis plusieurs jours, elle est sous pression de la Maison Blanche. Le responsable de l'agence de financement du logement l'accuse d'avoir falsifié des documents bancaires et des registres de propriété afin d'obtenir des conditions d'emprunt favorables pour 2 prêts immobiliers. Accusée d'avoir déclaré 2 résidences principales, elle répond que son prêt a été contracté avant qu'elle ne rejoigne la Fed. Donald Trump accuse Lisa Cook d'avoir eu, d'après ses mots, au minimum une conduite révélatrice d'une négligence grossière en matière de transactions financières, ce qui, toujours d'après lui, soulève des questions sur sa compétence et sa fiabilité en tant que régulatrice financière. Alors il est probable que la décision du président américain soit rapidement contestée en justice, ce qui permettrait à Lisa Cook de rester en poste au moins le temps de la procédure. L'avocate de la gouverneure est sur le dossier. Reste que ce procédé est une manière pour Donald Trump d'accentuer encore davantage la pression sur la Fed et son président Jérôme Powell. Le président américain l'a dans son collimateur depuis plusieurs semaines. Il lui reproche sa réticence à baisser les taux d'intérêt.
Merci Justine Leblond. C'est une cérémonie d'État à État hautement symbolique qui s'est tenue ce matin même à Paris, la restitution au gouvernement malgache de 3 crânes, dont celui présumé du roi Toera, un héros anticolonial malgache décapité par l'armée coloniale en 1897, et ceux de 2 de ses guerriers. Chloé Le Prince, bonjour.
Bonjour.
C'était là une revendication ancienne qui date de plus de 20 ans, qui a donc débouché avec la restitution de ces 3 crânes, jusque-là conservés au Musée de l'Homme à Paris, comme d'ailleurs des centaines de restes humains.
Oui, ce matin, c'était la toute première application de la loi cadre de 2023 sur la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qu'on appelle de plus en plus des restes ancestraux. Et il est loin le temps où, en octobre 2007, la ministre de la Culture saisissait le tribunal administratif contre le conseil municipal de Rouen, qui avait décidé de restituer à la Nouvelle-Zélande une tête maori tatouée et momifiée dans les collections de la ville. À l'époque, le tribunal avait censuré le geste de Rouen, contraire au principe cardinal du droit muséal et patrimonial en France. L'inaliénabilité des collections, ça concernait aussi ces restes humains.
Et depuis quand, Chloé, l'exposition de restes humains fait-elle scandale ?
Alors, on peut dater des années 50, un changement de sensibilité dans l'opinion publique. On tourne alors le dos à la tradition des cabinets de curiosité qui ont fait florès au 18e, au 19e siècle. Exposer des corps avait joué un rôle central dans l'attractivité de ces cabinets de curiosité. Mais le débat éthique a vraiment pris de l'ampleur il y a une 30aine d'années. En France, Jacques Chirac est président de la République quand la restitution des restes de Sarah Bartman fait débat en 1994, exposée dans des salons aristocratique. Elle était arrivée en 1814 en France et vous savez, c'est elle qui est restée célèbre sous le nom de Vénus Hottentote. Il faudra attendre 2002 pour son retour en Afrique du Sud et 10 ans de plus pour que le musée du Quai Branly restitue 20 têtes maoris, moyennant plusieurs années de travail scientifique sur le statut de ces objets notamment.
Et puis à l'étranger, c'est en Australie que le processus a démarré avec les premières restitutions aux aborigènes, c'était dans les années 70.
Oui, et puis ça s'accélère. Aux États-Unis, en 1990, le Congrès américain vote une loi pour répondre à la demande des communautés amérindiennes d'accéder à leur patrimoine conservé dans les musées occidentaux. Ça passera d'abord par des inventaires qui ensuite permettront de lancer des demandes de restitution. C'est cette loi qui a déclenché une réflexion plus vaste, mondiale, cette fois portée par l'ICOM, le Conseil international des musées. Deux codes déontologiques voient le jour, 2013-2019. Le mouvement vers la restitution des restes ancestraux dans les pays européens a été lancé. L'Allemagne sera volontariste, par exemple.
Merci Chloé Leprince. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Un ciel variable sur l'ensemble du territoire, alternance de nuages et d'éclaircies. Des orages pourront même éclater en fin de journée des Pyrénées au nord-est. Quant aux températures, on les affichera entre 20 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.